trouver le véritable amour. Il semble que tout le monde est à la recherche de l'amour, n'est-ce pas? Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés, ou que ce soit dans le couple. On recherche tous l'amour. On voit ça dans la littérature. Quelqu'un dit « une vie sans amour, c'est une vie sans soleil ». Un peu comme la vie en Belgique, il me semble. L'amour est la seule chose dont on n'a jamais assez, dit Henri Millet. Charles Trenet, je ne vais pas le chanter, mais quand notre cœur fait boum, tout avec lui fait boum. Et c'est l'amour qui l'éveille. Jean de La Fontaine, il dit « tout l'univers obéit à l'amour, aimer, aimer, tout le reste n'est rien ». Serge Gainsbourg, il dit « la vie ne vaut d'être vécue sans l'amour ». Il y a quelque chose en nous qui recherche l'amour, n'est-ce pas? La sécurité qu'il nous donne, le plaisir d'être avec quelqu'un, d'être accepté tel qu'on est, aimé par quelqu'un. Et l'amour entre les humains, c'est super. Mais ce n'est pas sans difficulté. Je crois qu'on sait cela. Il y aura des gens ici qui ont vécu la peine dans l'amour, des difficultés dans ce domaine. Mais ce matin, nous allons parler du véritable amour. Le véritable amour que présente la Bible. Et le véritable amour, ce n'est pas l'amour entre les humains, mais c'est l'amour de Dieu envers les humains. Un amour qui ne déçoit jamais. C'est l'amour de Dieu. Alors nous allons lire un petit verset dans la Bible. Alors, si vous avez cette petite feuille sur vous, peut-être vous asseyez dessus. Si vous pouvez l'avoir en main, comme ça on peut suivre ensemble. Et parce qu'on va lire la parole de Dieu, on a besoin de l'aide de Dieu pour la comprendre. Alors je vais prier pour l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons parce que tu t'es révélé à nous dans la Bible. Tu ne nous as pas laissés tout seuls sans les réponses, mais tu nous as donné les réponses dans la Bible. Et nous te prions que, lorsque nous lisons ce verset maintenant, que tu puisses nous parler au sujet du véritable amour et que nous puissions comprendre un peu plus sur Jésus et ton amour. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Alors, nous allons lire, je vais lire le verset ensemble. Ça vient de Jean 3,16 dans la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce verset résume bien l'amour de Dieu pour les humains. Nous allons voir quatre choses sur cet amour. Nous allons voir... Premièrement, que c'est un amour immérité. C'est un amour immérité. Jacob va mettre ça, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, dit le verset. Voyez, la Bible affirme clairement que Dieu existe, qu'il a créé toutes choses. On l'a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Et Dieu n'est pas un Dieu froid. Un Dieu distant, qui ne suscite pas de ses créatures. C'est un Dieu qui aime. Et qu'est-ce qu'il aime dans le verset? Il aime le monde. Et ce constat est époustouflant. Le monde déjà c'est grand, c'est énorme, et Dieu aime le monde. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qui s'appelle « Good Morning Vietnam ». Bonjour Vietnam, j'espère que vous n'avez pas vu. Mais c'est un film où il y a des scènes absolument incroyables du paysage de Vietnam. Et il y a la chanson de Louis Armstrong. Il dit, quel monde merveilleux. Il chante cela. What a wonderful world. Il chante. Et je ne vais pas chanter non plus. Mais il chante cela. Et on se dit, mais oui, le monde est merveilleux. On voit le paysage de Vietnam, c'est beau. Mais puis on entend des bombes qui s'explosent dans le paysage, les gens qui meurent, la guerre qui se fait. Et c'est tellement ironique, n'est-ce pas, que lorsqu'on chante « Quel monde merveilleux !» lorsqu'on regarde autour de nous et on voit le monde merveilleux, mais on voit que les habitants du monde ne sont pas forcément merveilleux, n'est-ce pas? Et dans l'évangile de Jean, là où ce verset est tiré, le monde veut dire non pas la terre physique qu'on étudie dans la géographie, mais plutôt les habitants du monde. Et écoutez juste ce que dit le reste de l'évangile de Jean sur le monde. Il dit que le monde déteste Jésus. Il dit que le monde déteste Jésus. Il dit que le monde est dirigé par le diable même. Il dit que les œuvres du monde, ce que les habitants du monde font, c'est mauvais. Alors le monde ici veut dire l'humanité en rébellion contre Dieu. Et ça, c'est nous, en fait. Et je peux, à ce stade, vous dire, mais attends, je suis quelqu'un de bien, je fais du bien autour de moi, je suis sympa, je vais à l'église. Mais en fait, par nature, on n'aime pas Dieu. On le laisse de côté dans notre vie. Et on préfère vivre sans lui, n'est-ce pas? Rappelez-vous de l'école. Il y a deux manières que, peut-être il y a des enseignants ici, je ne sais pas. Mon épouse était dans le passé. Il y a deux façons de montrer qu'on n'aime pas le prof, n'est-ce pas? Soit on peut nous asseoir dans la classe et dire « J'aime pas les maths, c'est dégueu, j'aime pas le prof, il est nul. » Et on va vraiment causer des dégâts dans la salle de classe. On va être violent, on va crier sur le prof et tout. Ça, c'est une manière de montrer qu'on ne respecte pas le prof, n'est-ce pas? Mais une autre manière, Une autre manière, c'est quand on reste là, tranquille, calme dans la classe, mais on ignore complètement la présence du prof. On est là, on ignore systématiquement ce qu'il nous demande. On n'écoute pas, on ne fait pas ce qu'il nous demande. Alors, si on voit les deux élèves là, ils ont l'air différents, n'est-ce pas? Un qui est violent, qui est vraiment, il déteste le prof, mais l'autre qui juste fait pas d'attention, il s'intéresse pas du tout, il refuse de faire ce que le prof lui demande. C'est différent, mais dans la fin du compte, c'est la même chose. Les deux n'aiment pas le prof. Les deux ne font pas ce que le prof veut. Et ils vont tous les deux se trouver devant le directeur à un moment donné. Mais c'est la même chose avec nous. Il se peut qu'on n'ait pas violemment opposé à Dieu. Il se peut qu'on ne se lève pas le matin en se disant « Je déteste Dieu ». Mais il se peut qu'on est beaucoup plus sympa. On fait du bien autour de nous. On va à l'église. Mais on ignore celui qui nous a créés. On dit « Merci pour tout ce que tu m'as donné, mais je ne veux pas que tu sois le maître de ma vie. Reste éloigné de moi. » Et ça, c'est une offense grave devant Dieu. Parfois, les gens disent « Dieu vous aime », comme si c'est quelque chose de banal, de normal, ça va de soi. Mais non, selon ce verset, Dieu a tant aimé le monde, les gens qui le détestent. Ça, c'est pas banal, ça, c'est pas rien, ça, c'est incroyable. C'est un amour immérité. Pas comme l'amour humain. Nous, on aime les gens qui sont aimables, qui sont chouettes, et on aime bien. Mais Dieu aime les gens qu'il déteste. C'est un amour immérité. Mais comment est-ce que Dieu a aimé le monde, alors? Nous allons voir ça dans le deuxième constat. C'est un amour coûteux. C'est un amour coûteux. Alors, l'amour coûte, n'est-ce pas, de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Pour le Saint-Valentin, j'ai offert à mon épouse Lizzie une rose rouge et ça m'a coûté 5,50 €. Vous croyez? 5. Mais vraiment, j'étais sur le point de refuser de l'acheter. Je crois qu'au Saint-Valentin, ils montent les prix. J'étais presque pas prêt à le payer. Mais bon, l'amour coûte. Et un écrivain portugais a dit « Aimer, c'est donner. » Plus grand le don, plus grand est l'amour. Alors, je ne sais pas combien vaut mon amour pour Lydie, mais bon. L'amour de Dieu ne pourrait pas être plus grand selon ce verset. Regardez avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Voilà combien Dieu nous a aimés. Nous qui sommes rebellés contre lui, et lui, il donne ce qui lui est le plus précieux. Son Fils unique. Dieu ne nous a pas juste donné un prophète ou un messager, mais son Fils unique. Et peut-être vous êtes ici, vous n'êtes pas convaincu que Jésus soit Dieu. Vous pensez qu'il est un chouette gars, un révolutionnaire, un homme religieux. Mais la Bible affirme clairement qu'il est Dieu. Mais est-ce que vous voyez l'amour de Dieu dans le verset? Lorsque Dieu a donné son Fils unique, ce n'était pas pour que Jésus ait la vie facile sur terre, qu'il soit aimé de tous, accepté de tous, et qu'il meure dans sa vieillesse. Non. Dieu avait envoyé son Fils pour mourir à la croix. Dieu avait planifié cela. Ce n'était pas un accident tragique, c'était son plan, parce qu'il nous aime. La croix est au centre du christianisme biblique. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Alors, on voit, c'est un amour immérité. Dieu a aimé les rebelles comme nous. C'est un amour coûteux, le prix de son Fils. Et troisièmement, c'est un amour qui pourvoit à notre plus grand besoin. Alors, à premier abord, on pourrait dire, mais comment est-ce que le fait que Jésus meurt tôt, il y a 2000 ans, à Nazareth, comment est-ce que ça pourvoit un besoin quelconque de moi? Et imagine que je me promène avec Lizzie autour du lac de Genval. C'est très beau, là-bas, très romantique. On fait une petite balade, là. Et moi, à un moment donné, je suis saisi d'amour. Je crie, Lizzie, je t'aime! Et je me lance dans l'eau, dans le lac, comme ça. Et je me noie. Est-ce que c'est l'amour? Non. C'est de la stupidité, dans un sens. Mais c'est un peu ce que quelques gens pensent de la mort de Jésus. Ils pensent que il se sacrifie, il va à la mort, juste pour montrer l'amour, pour nous aimer jusqu'au bout, on entend parfois. Mais si sa mort n'accomplit pas quelque chose, ce n'est pas vraiment de l'amour. Ça ne nous aide pas. Mais sa mort accomplit bel et bien quelque chose. Elle pourvoit à notre plus grand besoin. Alors, quel est ce besoin auquel Jésus répond par sa mort? Nous avons tous des besoins, n'est-ce pas? Des besoins de santé, d'amitié, de nourriture, le besoin d'aimer, d'être aimé. Et lorsqu'on regarde dans le monde, la crise économique, le réchauffement climatique, la pauvreté, la guerre, il y a des besoins. Mais la Bible dit clairement que notre besoin le plus fondamental, c'est d'éviter de périr éternellement. Nous voyons cela dans le verset. Regardez avec moi. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus parle ici de la vie après cette vie. Croyez-vous, notre existence ne prend pas fin lorsqu'on meurt. La Bible dit que nous allons faire face au Dieu qui va nous juger à ce moment-là. Il va passer en revue tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, et tout ce qu'on a pensé. Et ce moment-là, il y aura deux destins éternels. Ils sont là, dans le verset. Soit la vie éternelle avec Dieu pour toujours, soit de périr éternellement, puni par Dieu, en enfer, dit la Bible très clairement. Mais le problème, c'est que personne ne mérite d'aller à la vie éternelle. Personne. Personne ici à l'église d'Otigny, personne ici en Belgique, personne ne mérite d'aller au ciel. Et donc, nous allons faire face à la colère de Dieu. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort, pas de purgatoire pour nous laver un peu plus. Il n'y aura pas de moyen de persuader le juge, de lui dire, j'étais pas si mal que ça. Non, sa décision sera finale. Et donc, notre plus grand besoin, c'est d'être sauvé ce jour-là pour toute l'éternité, d'être délivré, secouru de la colère de Dieu. Et c'est en cela que la mort de Jésus pourvoit à notre plus grand besoin. Parce qu'à la croix, quelque chose s'est passé, un échange, si vous voulez. Lui, il a été puni par Dieu à notre place, afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Lui a pris sur lui la colère de Dieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est revenu d'entre les morts pour prouver que sa mort était efficace pour nous ramener à Dieu. Alors revenons à mon promenade avec Lizzie à Genval, ça se passe bien. Je ne suis pas encore lancé dans l'eau. Mais si Lizzie tombe dans l'eau, et puis je crie « Je t'aime », et je vais dans l'eau pour la secourir, je la sauve, mais en la sauvant, je me noie. Ça, c'est l'amour. Et c'est ça qui se passe à la croix de Jésus. Nous, on est en danger éternel et réel. Jésus vient mourir pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est peu qu'on ne se sent pas en danger. Maintenant, peut-être, on ne croit pas que Dieu va nous juger. Mais lorsqu'une salle se remplit de carbone, de monoxyde de carbone, on ne se sent pas, on n'est pas au courant du danger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors prenons au sérieux l'avertissement de Jésus et la solution. Alors cela nous amène à notre dernier point. C'est un amour immérité, un amour coûteux, un amour qui pourvoit notre plus grand besoin, un amour qui exige une réponse. Vous voyez, ce n'est pas automatique. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, on est tous sauvés, on va tous avoir la vie éternelle. Non, l'amour de Dieu exige une réponse. C'est comme tout l'amour, n'est-ce pas? Si on dit qu'on aime quelqu'un, s'il n'y a pas de l'amour de l'autre côté, ça ne marche pas. On ne peut pas juste prendre pour épouse quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais parfois, comment est-ce qu'on va être accepté par Dieu? Comment est-ce qu'on peut répondre à l'amour de Dieu? Quelques gens pensent qu'il faut faire quelque chose. Il faut aller à l'église plus, ou il faut faire le ménage dans sa vie, ou il faut aller se confesser les péchés au prêtre. Mais non, ça marche pas. On peut pas faire ça, ça nous aide pas. La réponse, c'est croire. C'est dans le verset, vous avez vu ça. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. C'est mettre notre confiance en. Jésus a dit que sa mort est suffisante pour nous sauver, et donc c'est nous confier à ça. Croire ce qu'il dit. C'est comme vous vous assiez sur les chaises là, vous avez confiance que les chaises vont vous tenir. Et ça, c'est ce qu'on fait avec la promesse de Jésus ici. Jésus dit que sa mort est suffisante. Est-ce que nous allons nous asseoir là-dessus? Mettre notre poids sur ça. Faire confiance. Alors, l'amour de Dieu, l'amour véritable, est immérité. Il aime les gens comme nous, croyez-vous. Cet amour de Dieu est coûteux. Il a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Cet amour de Dieu pourvoit notre plus grand besoin d'être sauvé de l'enfer. Et cet amour de Dieu exige une réponse. Dieu a démontré son amour dans l'histoire il y a 2000 ans. Mais comment est-ce que vous allez répondre à cet amour? Est-ce que vous allez le rejeter? Est-ce que vous allez sortir de la salle ce matin en oubliant tout ce que vous avez entendu ce matin? Mais qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous êtes face à face avec Dieu le juge un jour? Il n'y a rien de mieux que de connaître l'amour de Dieu. Et rien de plus urgent non plus. Pourquoi pas venir à notre groupe de découverte de la Bible? C'est l'autre feuille sur la chaise. Peut-être que vous avez des questions. Ça a provoqué des questions, ce que j'ai dit. Et je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça ou ça? Et on va avoir des soirées ici, les jeudis soirs, autour d'une tasse de café, un gâteau, où on va discuter, dans un cadre très relax, reposé, des questions clés de la foi chrétienne. Vous êtes vraiment les bienvenus. Venez juste une fois pour essayer, vous n'êtes pas obligé de faire les cinq, venez une fois et voir comment c'est. Mais il se peut qu'il y a des gens ici, mais vous savez que c'est vrai, que Dieu vous aime. Et vous savez que vous êtes un rebelle contre lui, qui mérite sa colère. Et vous voyez l'amour de Dieu à votre égard, et vous voulez l'accepter. Il se peut qu'il y ait des gens comme ça ce matin. Ce n'est pas tout rose d'être chrétien, c'est difficile, mais on sait, comme Marie-Lise l'avait dit, on sait que Dieu est avec nous, et on sait que demain est dans sa main. Et on aura la vie éternelle pour toujours. Alors si vous voulez mettre votre confiance en Jésus, d'accepter l'amour véritable ce matin, je vais prier une petite prière. Maintenant, je vais parler à Dieu pour, si vous voulez répondre et accepter l'amour de Jésus. Peut-être que ce sera pour la première fois, ou il se peut que vous vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez revenir à Jésus. Alors, je vais mettre cette prière sur l'écran. Je vais juste le lire afin que vous sachiez ce qu'il dit. Avant de prier, il dit, je sais que je ne suis pas digne d'être accepté par toi, je suis coupable de me rebeller contre toi, je t'ignore et de t'ignorer, j'ai besoin de ton pardon. Et puis, remercier Dieu pour ce qu'il a fait, je te remercie pour ton amour, d'avoir donné ton Fils unique, mourir pour moi, afin que je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Il y a une demande à Dieu de nous pardonner, pardonne-moi, transforme-moi, pour que je puisse vivre avec Jésus comme maître. Si vous savez que vous devez faire ce pas. Alors on va nous, juste être silencieux pour un moment et pourquoi pas répéter après moi dans le silence, dans votre tête, si vous êtes prêt à accepter ce véritable amour. Prions ensemble. Mon Dieu, je sais que je ne suis pas digne d'être accepté par toi. Je suis coupable de me rebeller contre toi et de t'ignorer. J'ai besoin de ton pardon. Je te remercie pour ton amour et d'avoir donné ton Fils unique mourir pour moi, afin que je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Pardonne-moi. Transforme-moi pour que je puisse vivre avec Jésus comme maître. Amen. Alors si vous avez prié cette prière, votre destin éternel a changé. C'est formidable. Venez parler à Gaston ou à moi. Après, on peut vous aider dans les premiers pas de la vie chrétienne. Mais si vous hésitez encore, si vous avez encore des questions, pourquoi pas venir jeudi soir ici, juste dans la salle à côté. Dieu a montré son amour pour nous. Comment est-ce que nous, on va y répondre?